Au rythme du parc. Une émission dédiée au parc du Vercors et à son actualité. Produite par Erdiwa et financée par le parc naturel régional du Vercors. Au rythme du parc. Comme si vous y étiez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au rythme du parc où aujourd'hui je vous propose un petit bilan autour des actions mises en place par le parc naturel régional du Vercors autour de la mobilité douce. Pour ce faire, je suis en conversation téléphonique avec Didier Lalande, donc Didier Lalande chargé de mission à la diversification touristique au parc naturel régional du Vercors. Bonjour Didier.
Bonjour.
Dites-nous, pour commencer peut-être et pour éclairer nos auditeurs, quel est votre rôle au sein du parc naturel régional du Vercors ?
Donc, au sein du parc, en fait, je pilote une procédure cofinancée par l'Europe et la région Rhône-Alpes qui finance des actions de diversification touristique pour les stations du Vercors. En fait, sont les stations du Vercors, l'ensemble des stations du Vercors, ça va jusqu'à Luce-la-Croix-Haute, hein, d'Outran à Luce-la-Croix-Haute, je dirais.
Donc le parc aujourd'hui a un rôle écologique en tout cas à jouer. Quelles sont les actions mises en place par le parc autour de cette mobilité douce ?
Alors, le rôle du parc, c'est pas un rôle que écologique. Hein. De toute façon, le rôle d'un parc, c'est toujours de trouver l'équilibre, justement, entre protection de l'environnement et développement économique. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on travaille. Hein. Donc, on est vraiment sur les piliers du développement durable. Hein. C'est-à-dire qu'on essaye toujours de prendre en compte toutes les problématiques environnementales, les problématiques sociales, les problématiques économiques. Voilà, c'est vraiment ce qui importe au parc. Et dans ce cadre-là, eh bien, c'est vrai que la diversification touristique, c'est un sujet qui est brûlant en ce moment, vu qu'on sait que les attentes des visiteurs comme des habitants sont en train d'évoluer très rapidement et qu'il faut qu'on puisse adapter l'offre touristique à la fois aux utilisateurs, tout en respectant bien sûr l'environnement.
Plus concrètement, alors, qu'avez-vous mis en place ?
Alors, sur la problématique spécifique de la mobilité douce, en fait, le rôle du parc, il peut se diviser en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'à la fois, il participe à certains débats sur les mobilités douces. Hein, donc, dans cette participation, ça peut être simplement des études de faisabilité qui ont eu lieu, notamment dans le DIWA, sur la faisabilité de l'autopartage. Ça peut être participer au débat national sur la transition énergétique. Ça peut être les problématiques de câbles sur les quatre montagnes, hein, dont on entend pas mal parler en ce moment. Ça peut être des projets de covoiturage avec Bouche Tranquille dans le Royan, ou ce sont des projets de navettes touristiques dans les Coulmes. En fait, ça peut être assez divers. Mais là, on parle de participation. Donc, le parc est un des acteurs, en fait, du territoire. Il est le garant d'une cohérence de massif. Et puis, je pense qu'il donne aussi beaucoup d'informations d'un secteur du parc à l'autre, parce que certains secteurs ne sont pas toujours au courant de ce qui se fait dans un autre. Et ça permet aussi d'être plus cohérent et de pouvoir mutualiser. Donc, c'était la partie participation. Après, on a un rôle que j'appellerais plutôt l'animation. Là, le rôle du parc est plus actif, c'est-à-dire que c'est une réflexion sur le développement des VAE. Donc, on a animé quand même pas mal de réunions, notamment avec les socioprofets et puis les collectivités locales sur le développement du vélo à assistance électrique, VAE. Notamment dans le DIWA, donc on a impliqué à bicyclette avec David Cacré et puis l'ensemble des autres prestataires VAE qui sont en train de se mettre en place sur l'ensemble du territoire pour savoir comment on pouvait organiser cette activité ou organiser des parcs de location de vélos assistance électrique autour d'itinéraires qui soient adaptés. Et puis, l'animation, c'est aussi, par exemple, un travail qui a été relativement important, qui a été fait déjà depuis pas mal d'années dans le cadre de la mise en place des grandes traversées du Vercors, des GTV, et ceci autour du transport des bagages ou des séjours touristiques de gare à gare, hein, où simplement on incite les visiteurs, les vacanciers à démarrer leur séjour d'une gare pour arriver à une autre gare quand ce sont des séjours itinérants, et où on essaie de mettre en place le plus pratiquement possible le déplacement de leurs bagages, sachant qu'on sait très bien que maintenant, en itinérance, les gens veulent de moins en moins porter leur bagage. Donc voilà, participer, animer. Et puis un autre rôle aussi du parc sur ces mobilités douces, c'est d'accompagner. Donc là, c'est l'accompagnement de projets qui sont portés par des collectivités locales, par des communes, par des communautés de communes, hein, qui sont des projets comme, par exemple, des projets d'itinéraires de déplacement doux. Donc, il y en a eu plusieurs. Hein. Il y a eu des projets de déplacement doux, par exemple, sur la communauté de communes du Vercors, sur le canton de la Chapelle. Il y a eu un itinéraire de déplacement doux pour se déplacer de la Frache au stade Raphaël Poiré. On a eu, notamment dans le cadre du contrat de diversification, dont on a parlé tout à l'heure, plusieurs projets, autres projets, notamment sur les quatre montagnes, avec le projet de Via Vercors, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un projet de voie douce en site propre qui relie les sept villages des quatre montagnes entre eux. On a là plutôt dans le rôle d'animation, assister le Royan dans son projet de véloroute et de voie douce sur le Royan. Et puis, on est aussi très impliqué, toujours aussi dans le cadre du programme de diversification touristique dont je m'occupe, sur le Trièves, sur un projet qui s'appelle le Balcon S à trois niveaux, qui valorise en fait trois niveaux d'itinéraire et qui relie cinq villages du Vercors-Trièves. Aussi impliqué à titre consultatif, hein, en animation, sur un projet par exemple de navettes touristiques qui ferait le tour des Coulmes et puis d'une partie des villages de la communauté de communes de Bourg-d'Anisère. Enfin voilà, ça peut être relativement divers. Donc on va parler participation, animation, accompagnement, mais il y a aussi des réalisations directement par le parc du Vercors. Et pour exemple, là, je donnerai cette étude de préfiguration d'un centre de ressources sur les mobilités alternatives qu'on est en train de lancer. Donc c'est un mot un petit peu barbare, mais en fait, le but du jeu, c'est à la fois de recenser, de stimuler, de développer tous les modes de déplacement alternatifs, et puis d'essayer de réseauter ça et de travailler sur la partie intermodale. On en reparlera après, hein, c'est-à-dire de trouver des nœuds intermodaux où à chaque fois on peut changer de mode de transport pour se rendre d'un point à un autre, et de connecter tout ça à la fois aux gares et aux transports en commun existants. Donc l'idée de cette étude-là, c'est de pouvoir, pour schématiser un petit peu, avoir simplement un site internet où on dit, ben voilà, je viens de Saint-Étienne, je veux aller à la Chapelle en Vercors, ou je viens de Villard-Lans, je veux aller à Die. Qu'est-ce qu'on me donne comme solution pratique, que ce soit en mode doux ou en transport en commun traditionnel, ou combiné avec les deux, pour aller d'un point à un autre.
Donc participer, animer, accompagner, quels sont les constats qui font qu'aujourd'hui le parc naturel régional du Vercors réalise qu'il y a un chemin à suivre ?
Alors d'abord, le premier constat, c'est de se dire le règne de la voiture individuelle est en train de disparaître. On espère qu'on va trouver, avoir une transition qui va se faire dans la douceur, mais c'est vrai que les transports individuels, on sait bien que c'est pas forcément l'avenir, et pour l'instant, notamment en moyenne montagne, partout en moyenne montagne, la voiture individuelle reste actuellement le moyen presque unique à certains endroits pour s'y rendre. Donc ça, la volonté du parc, elle est très clairement affichée, de se dire il faut le plus possible essayer de trouver des solutions pour atteindre le plus grand nombre de points sur le territoire du parc sans voiture individuelle. C'est très clair, pour des raisons qui sont évidentes, hein, qui sont le coût financier. Enfin voilà, on est vraiment sur vraiment des idées de développement durable. Et puis, on est aussi sur un côté pratique, c'est-à-dire que on est dans une période de crise. C'est vrai que les temps sont durs pour tout le monde et tout le monde n'a pas forcément de voiture. Et il faut aussi que certains habitants du territoire, qui sont peut-être pas les plus riches, puissent aussi se déplacer sur le territoire. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de mailler le territoire de solutions qui permettent à la fois aux habitants, à la fois aux visiteurs à la journée, à la fois aux gens qui sont en séjour touristique, de se déplacer au mieux sans pour autant utiliser la voiture individuelle, ou si on utilise la voiture individuelle, c'est avec un taux de remplissage bien supérieur à celui qu'il est actuellement.
On suit bien le concept, mais dites-moi, depuis le moment où vous œuvrez dans ce sens-là, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer justement ? Qu'est-ce que concrètement a été difficile à mettre en place ?
Alors, pour l'instant, là, sur cette partie-là, on est vraiment au début. Hein.
Ouais, c'est le
Le
début, là.
travail sur les mobilités douces et les mobilités alternatives, je pense qu'on est vraiment tout au début. Hein. Donc, ça, là, plutôt que les difficultés pour avoir réalisé ou mis en place, c'est plutôt qu'on va avoir pour mettre en place. On est plutôt encore dans le futur. Parce que c'est vrai que c'est relativement complexe, parce que ça demande des changements de mentalité très importants. Et puis, on se heurte à des problématiques qui sont assez usuelles hein, sur le territoire du parc du Vercors. Le parc est partagé entre deux territoires, l'Isère et la Drôme. C'est vrai qu'en transport en commun, ben, l'ensemble des transports en commun sur l'Isère se déverse du canton de Villard-de-Lans vers Grenoble, du canton de la Chapelle vers Valence. C'est pas toujours évident d'arriver à relier ces deux régies de transport en commun, ou en tout cas les AOT, ce qu'on appelle les AOT, les autorités organisatrices des transports, ont des fois beaucoup de mal à travailler ensemble. Et on voudrait déjà arriver à résoudre ce problème-là. Après, on a un problème de gare, hein, parce que c'est vrai qu'on a un massif qui est bien entouré de gares, mais qui sont des petites gares, qui ne sont pas toujours très bien desservies en termes de cadencement, et que c'est difficile de raccrocher en fait tous ces problématiques de déplacement doux aux gares. Et puis on a quelques problèmes qui sont assez majeurs, comme la difficulté. On sait très bien par exemple que la gare de Valence TGV était une possibilité d'accès au Vercors qui est absolument fabuleuse, hein, puisque ça met en fait Paris et Marseille à 2 heures du Vercors, enfin en tout cas de Valence, et puis à 3 heures du Vercors. Et c'est quelque chose qui touristiquement, mais aussi pour certains habitants du territoire, pourrait être très intéressant, mais on a encore beaucoup de mal à pouvoir relier le Vercors depuis Valence TGV. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme autre problème ? Eh ben, c'est compliqué d'organiser différents types de pratiques pour arriver justement à des nœuds intermodaux qui soient efficaces.
En termes de synchronicité.
Nœud intermodal, hein, c'est simplement se dire, eh ben, il y a un endroit, le bus s'arrête, à partir de là, est-ce que je vais pouvoir prendre un vélo assistance électrique ? Est-ce que je vais pouvoir prendre un taxi en transport à la demande ? Est-ce que je vais pouvoir avoir un lieu de départ de covoiturage ? Est-ce que quand je vais arriver à... Les nœuds intermodaux sont des endroits où en fait se rassemblent les différents services de transport et où les gens peuvent utiliser et changer de transport en fonction des destinations.
Et concrètement, pour nos auditeurs, peut-être pourriez-vous nous aider à matérialiser un petit peu cette optique. Quand effectivement on arrive sur une zone où seul le VAE, le vélo à assistance électrique, est disponible, comment concrètement vous informez les touristes, ou en tout cas les visiteurs, les gens amenés à emprunter ces modes de transport ? Concrètement, y a-t-il des pancartes ? Y a-t-il des...
Pas encore.
D'accord.
Non, vraiment. Mais par contre, on est vraiment en train d'y travailler. Ça veut dire que là, pour l'instant, il y a un rôle d'animation du parc à l'échelle du massif pour dire il faut absolument qu'on ait des outils de communication, site internet, cartographie, et puis bien sûr balisage sur le terrain, qui expliquent aux gens ces possibilités intermodales, qui expliquent aux gens, quand on est en vélo électrique, où est-ce qu'on peut aller recharger une batterie, où est-ce qu'on peut avoir un support technique si on en a besoin, à partir de, est-ce que c'est possible, pour certains endroits ça le sera, pour d'autres ça ne le sera pas, d'abandonner son vélo électrique pour qu'il soit ramené après, puis revenir avec une autre forme de déplacement, que ce soit à pied, en bus, ou j'en sais rien encore quoi. Mais pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt pour répondre à cette question-là. Mais c'est vrai qu'on mettra tout en œuvre pour qu'après, ce soit relativement efficace. Et je pense qu'un des moyens qui sera les plus efficaces pour ça, c'est simplement un site internet hein, qui dit encore une fois, je pars d'ici, de tel endroit, je veux aller à tel autre endroit, quels moyens sont mis à disposition et quelles solutions j'ai pour y arriver, quoi.
Donc là, vous êtes en train finalement de baliser un petit peu toutes les pistes, hein, toutes les possibilités à offrir à nos envieux.
C'est-à-dire que cette étude de préfiguration d'un centre de ressources sur les mobilités alternatives, ça ne va pas être une grosse usine à gaz. C'est simplement avoir un moyen, site internet, application smartphone ou cartographie, très simple pour que les gens comprennent facilement comment se déplacer d'un point à un autre avec plusieurs moyens de déplacement.
À quand pensez-vous les outils disponibles ?
Alors je pense que ça va se mettre en place dans les années qui arrivent, mais à relativement court terme. C'est-à-dire que je pense que d'ici, on va par exemple relativement rapidement avoir une cartographie, on peut appeler sur le vélo soft, qui va sortir, ça veut dire sur tout ce qui est lié à l'assistance électrique, du VTT assistance électrique, du vélo assistance électrique, enfin voilà. Donc ça, on devrait l'avoir d'ici un an ou deux. Après, sur l'interconnexion, connexion, l'intermodalité de l'ensemble des moyens de déplacement, hein, que ce soit covoiturage, que ce soit autopartage, que ce soit transport en commun, transport à demande. Tout ça, bien sûr, ça peut être aussi complété par du transport de colis, ça peut être... Enfin bon, toute cette chaîne, en fait, de moyens de déplacement, de biens et de personnes, et à mon avis, ça va prendre encore 5, 6 ou 7 ans avant de se mettre vraiment de manière efficace en place. C'est vraiment du travail de fond qu'il faut absolument qu'on fasse parce que de toute façon, c'est dans l'air du temps, c'est une nécessité à la fois pour le territoire et c'est une envie aussi des usagers.
Tout à fait, effectivement, hein, je tiens à rassurer nos auditeurs, le parc naturel régional du Vercors œuvre dans ce sens. Bientôt, vous aurez les moyens de vous déplacer en toute tranquillité, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, le parc naturel régional du Vercors propose des actions, en tout cas des alternatives hein, à la voiture individuelle. Qu'est-ce que ça représente de manière budgétaire? Qu'est-ce que le parc investit?
Alors, le parc bénéficie de plusieurs procédures de financement qui permet d'être subventionné pour les actions qu'il a en maîtrise d'ouvrage directe. Mais c'est difficile de répondre à votre question parce qu'une étude comme une étude de préfiguration pour un centre de ressources sur les mobilités alternatives dont je vous parlais, c'est une étude qui coûte à peu près 30 000 euros, mais c'est une étude qui va durer un an et qui est relativement importante. Après, on bénéficie aussi d'autres moyens d'études et d'élaboration de solutions. Je parlais tout à l'heure de cette grosse étude régionale sur la mobilité dans les parcs, donc qui a été payée par la région, hein, par le conseil régional Rhône-Alpes. Donc où là, nous, on est intervenus en tant qu'animateurs de terrain, mais les financements sont passés par la région Rhône-Alpes. Après, il y a, en termes de diversification touristique, une part importante de financements qui ont servi aux mobilités, mais pas seulement. C'est vrai qu'on a fait aussi beaucoup d'autres actions de diversification touristique. Pour vous donner un petit ordre d'idée, la procédure que je pilote, qui est le programme opérationnel interrégional du Massif des Alpes, hein, le contrat de diversification touristique des stations, c'est à peu près 7 millions d'euros sur le territoire du parc du Vercors entre 2010 et 2014. Voilà. Une nouvelle procédure va se lancer après, à partir du 2014-2015, dont on ne connaît pas encore les dotations. Mais à chaque fois, c'est vrai que tout ça est très imbriqué, c'est-à-dire qu'il y a des procédures qui sont cofinancées par la région, par l'État, par l'Europe, par les départements. Et puis il y a bien sûr aussi des initiatives en direct des départements, de la région, des communes, des collectivités territoriales qui font aussi beaucoup de choses sur le territoire.
Donc effectivement, vous êtes soutenu hein, par la région Rhône-Alpes notamment, mais si on avait à émettre l'hypothèse que vous aviez à agir sur le plan national, comment ressentez-vous un petit peu les institutions? Est-ce que vous sentez une évolution, une possibilité d'évolution vers ce genre de mobilité?
Ah oui, alors je pense qu'il y a une vraie volonté. Hein. De toute façon, c'est vrai qu'il y a le débat national sur la transition énergétique, on est quand même la preuve. C'est vrai qu'il y a une vraie envie, mais c'est même pas une envie, c'est une nécessité. Je pense qu'on a personne ne peut dire aujourd'hui qu'on va continuer à fonctionner comme on fonctionnait jusque-là. Donc on est dans une période transitoire sur laquelle beaucoup de gens, je pense, travaillent et s'impliquent. Après, c'est vrai que la France est un pays compliqué et cette complexité génère pas mal d'inertie. Et c'est vrai que faire changer les mentalités, les organisations locales, les limites administratives, passer à travers les limites administratives pour organiser différemment les transports, et ben c'est quelque chose qui est relativement compliqué et qui prendra quand même un certain temps.
Alors peut-être, Didier Lalande, me direz-vous que vous êtes appuyé sur un projet pilote, et lequel serait-ce? Peut-être y a-t-il une région déjà plus avancée que la nôtre?
Oui, alors en effet, c'est vrai que nous, on regarde quand même relativement souvent vers un autre parc naturel régional, qui est le parc naturel régional du Pilat, Dieu travaille sur l'intermodalité, les mobilités alternatives depuis déjà pas mal de temps. Ben, voilà, ils ont une longueur d'avance sur nous, je dirais, donc on regarde de près. Et donc ils ont aussi essuyé les plâtres, donc on regarde de près ce qu'il y a de bien et puis ce qu'ils ont eu, là où ils ont eu plus de mal. Et donc, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer.
Qu'est-ce qu'ils ont mis en place concrètement?
Ils ont déjà ce qu'on appelle une centrale de mobilité, c'est-à-dire ils ont déjà cet outil qui permet aux gens de choisir des modes de déplacement en fonction de leurs envies et de leur motivation et puis de leurs besoins pour aller d'un point à un autre. Donc c'est vrai que c'est une organisation relativement complexe qui doit pouvoir proposer à tout un chacun des moyens alternatifs de déplacement efficaces, surtout efficaces, parce que s'il faut des journées pour arriver d'un point à un autre, à ce moment-là on perd toute efficacité et les gens ne sont pas motivés pour les utiliser.
Tout à fait. Que pensez-vous, Didier Lalande, de cette entrevue? Pensez-vous qu'on a fait le tour?
Là, on commence à avoir... je pense qu'on a dit l'essentiel. Je pense que si on en dit beaucoup plus, après, il faut rentrer dans beaucoup plus de détails. Et je ne suis pas sûr que vos auditeurs, aient envie de rentrer dans tous les détails de différents financements, de différentes organisations. C'est vrai qu'on est dans des fonctionnements qui sont complets et complexes. Et je pense qu'on en a déjà pas mal dit. Ceci dit, moi, je reste à disposition de tout un chacun pour me poser des questions. Il y a aussi mon collègue au Parc du Vercors, la Serge Chariot, qui travaille beaucoup, qui est lui chargé de mission sur les énergies et qui travaille beaucoup aussi sur tout le volet énergétique, je dirais, qui est très lié aussi, bien sûr, aux mobilités, qu'on peut aussi contacter. Et puis, il y a aussi un grand nombre d'associations très impliquées dans l'autopartage, dans le covoiturage, dans ce genre de projet. Et puis, les communes et les communautés de communes qui, bien sûr, aussi s'impliquent.
Peut-être auriez-vous un contact à transmettre à nos auditeurs afin qu'ils aient les renseignements qu'ils souhaitent?
Le mieux à ce moment-là, c'est qu'ils me contactent par mail. Je pense que c'est le plus simple s'ils ont des questions. Et mon mail, c'est didier.lalande@pnr-vercors.fr.
Très bien, Didier. Je vous remercie de toutes ces précisions. Et puis, bon vent à la mobilité douce et à tout ce qui s'ensuit.
Eh bien, merci à vous et très bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Donc, la capsule de rythme du parc sera consacrée à David Cacré et à sa démarche à bicyclette. Alors, bonjour David.
Bonjour. Alors en deux mots, en 2012, donc le projet là, à bicyclette a un an maintenant, depuis juin 2013. Donc l'idée, c'est de proposer des circuits à la découverte du Diwa et permettre de faire ces circuits à vélo assistance électrique pour pouvoir gommer la barrière physique que représente le Diwa. La seconde partie du projet, c'est le développement local, c'est mettre en place des locations longue durée pour les habitants du Diwa, pour qu'ils puissent eux aussi lâcher leur voiture et prendre un vélo pour aller au travail ou alors faire leurs courses ou se déplacer. Et il y a eu une association qui a été montée dans ce cadre-là et qui s'appelle la SPID, qui est l'association pour la promotion et l'incitation au déplacement doux. Cette association, elle, est subventionnée par le CDDRA. Ça permet donc que 50% du coût de la location soit pris en charge par les pouvoirs publics. L'idée, c'était que tout le monde fasse un effort. À bicyclette, se met les marges au minimum. Eh bien, sans bénéfice sur l'opération. Les pouvoirs publics font un effort parce qu'ils incitent les gens à lâcher leur voiture et le consommateur, il fait un effort parce qu'il dit, tiens, ce mois-ci, au lieu de mettre 50 euros d'essence, je mettrai 50 euros dans le vélo assistance électrique. Alors, ce projet, il est né d'abord en observant autour de moi des Hollandais qui étaient en vélo assistance électrique, qui m'ont fait essayer, je trouvais ça génial. Et ensuite, j'ai monté le projet via, quand même d'abord, il faut le préciser, un programme européen qui s'appelle ELI, ces entreprises localement innovantes. Donc là, derrière tout ça, il y avait une étude de faisabilité et ensuite des conseils par un cabinet de consultants extérieurs. Après, effectivement, je n'étais pas seul dans le projet parce que c'est quand même un projet important. Et j'ai bénéficié des compétences de Nathalie qui m'a bien aidé sur le projet et entre autres sur la mise en place des circuits et sur une bonne partie de la commercialisation. Donc, je lui dis merci. Honnêtement, ça n'a pas été très dur à mettre en place. Je crois que le projet, il correspond tellement au territoire du Diwa qu'en fait, j'ai eu une écoute facile de la part des institutions publiques, des banques. Ça a demandé beaucoup de travail, en tout cas, au niveau de la mise en place des circuits et du choix des vélos, quoi. Ça, c'était vraiment quelque chose de primordial. Il fallait que ce soit efficace et il fallait que ce soit fiable. Parce qu'on sait que c'est très innovant, même si on voit de plus en plus de vélos assistance électrique, mine de rien, le réflexe louer un vélo électrique, il faut qu'il y ait vraiment un super retour des gens, quoi. Au niveau financier, ça a coûté à peu près 80 000 euros d'investissement. Au niveau humain, ça a coûté beaucoup plus cher. Voilà, c'est énormément de temps passé dessus, c'est énormément de temps non consacré à sa famille, à ses enfants. Et en plus de ça, eh bien, comme toute création d'activité, on n'en vit pas, quoi, au départ, hein. Donc c'est beaucoup de temps pour l'instant, en espérant que l'avenir soit plus rose. À ce stade-là, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il faut effectivement que la bicyclette, ça prenne plus d'ampleur au niveau des locations touristiques. On sait qu'au niveau des locations longue durée pour les habitants du Diwa, donc c'est quelque chose qu'on arrête en juillet-août pour avoir le parc de vélos à disposition des touristes qui rentabilisent la bicyclette. Mais en juin, quand on arrêtait l'opération, on était à 22 vélos sur 25 qui sont dehors en longue durée. Et on sait qu'à partir de là, dès qu'on va dire on recommence, les gens vont venir relouer les vélos. Donc ça, c'est un vrai succès. Au niveau touristique, il nous faut plus de gens. C'est une réussite parce que 100% des gens sont super heureux quand ils reviennent et franchement, quoi, ouais, ils sont contents des vélos, des circuits, ça leur permet de faire du vélo sans forcer. Mais maintenant, il faut plus de gens, quoi. Donc, bon, bah, c'est à qu'un an la bicyclette, hein. On sait que généralement, on atteint la vitesse de croisière au bout de 3 ans. Voilà, donc il y a encore du boulot de commercialisation et même d'adaptation du produit par rapport, par exemple, je pense aux journées très chaudes de l'été où effectivement on n'a peut-être pas forcément le réflexe de faire du vélo quand il fait très chaud. Et l'idée, c'est de mettre en place des formules accompagnées matin et soir, en fait. Voilà. D'abord, on a un super site internet. Donc là, pour le coup, je remercie aussi Sébastien, un copain qui nous a fait un super site, www.a-6bicyclette.com. Dessus, il y a une adresse mail, page de contact, quoi. Et ensuite, au niveau du téléphone, je conseille à tout le monde de m'appeler sur le portable parce que je suis quand même souvent en déplacement. Et c'est le 06 42 00 23 73. Et le magasin se trouve 18 rue de l'Armellerie. C'est une petite rue qui part de la place du marché dans le centre de Die, quoi. Je vais rajouter une chose par rapport à la SPID, à l'association. Donc cette association qui a pour but de louer des vélos assistance électrique, que ça revienne moins cher aux habitants du Diwa, elle a aussi pour but d'organiser donc le 21 septembre, la veille de la cyclodromoise, une vélorution. Donc une vélorution, c'est un rassemblement festif et populaire de gens à vélo et on va tous faire un tour ensemble. C'est quelque chose qui va durer une demi-heure. On tourne dans Die, on fait le tour de Die et ce sera l'occasion pour vous tous, avant et après la vélorution, de rencontrer beaucoup d'associations et de professionnels liés au vélo utile. Pas au vélo sportif, au vélo utile, je mets bien l'accent là-dessus, puisque c'est le dimanche, le vélo sportif. Il y a plein d'animations qui vont avoir lieu sur la place du Méros le samedi après-midi, et ça ira jusqu'au samedi soir avec un film qui sera passé au Pestel, qui s'appelle La Reine Bicyclette, c'est l'histoire des Français à vélo. Super journée, vraiment sympa, et en plus militante.
Merci David de nous avoir permis ce petit focus sur la bicyclette et la speed. Moi je te dis à très bientôt, et j'espère que ça va bien marcher.
Je te remercie, à bientôt.